c'est sûr qu'il y a un côté hyper paternaliste, genre, ah, elles sont mignonnes, les petites Jeannettes de 20 ans, qui pensent qu'elles vont changer le monde en faisant de la couture.
Salut, c'est Cléo et bienvenue dans Championne du Monde, le podcast de toutes les femmes qui vivent le sport aujourd'hui. Pongistes professionnels, aficionados du Stade Vélodrome, médecins du sport ou encore vos mères fans de Kevin Mayer, dans chaque épisode, partez à la rencontre de ces femmes passionnantes qui sont plus badass que la plus badass de tes copines. Bonne écoute! Pétillante et pleine d'humour, c'est probablement ce qui décrirait le mieux selon moi Laetitia Pingel, l'invitée du deuxième épisode. Il y a 2 ans, à seulement 25 ans, elle a créé avec une amie Revel, la première marque de contact wear féminin. Autrement dit, des équipements de sport qui protègent les femmes contre les chocs induits dans les sports de contact, comme la boxe ou le rugby. Pourquoi s'être lancée dans l'entrepreneuriat? Est-ce qu'on est vraiment prise au sérieux quand on parle de poitrine auprès des investisseurs? Les secrets de son parcours, Laetitia nous les révèle. Oui, bon, ok, elle est facile celle-là.
Revel, c'est la première marque d'équipement et de protection pour les femmes qui font des sports de contact. Donc globalement, les sports où on se tape un peu dessus, du rugby, du hand, du foot, les arts martiaux, du jiu-jitsu, tous ces sports un peu considérés comme violents parfois et traditionnellement masculins. J'ai 27 ans et ça fait maintenant 2 ans et demi qu'on travaille sur Revel et sur les produits qu'on a développés. Et aujourd'hui, on a des produits, des clientes et on continue d'essayer de faire bouger un peu les choses pour le sport féminin.
Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce qui est Revel? Quels produits en fait vous commercialisez?
En gros, on s'est rendu compte, moi je faisais du rugby à la base, je fais pas mal de sport quand j'étais petite et tout, et je me suis vraiment mise au rugby en universitaire. Et en gros, je me suis rendu compte à ce moment-là que je m'habillais chez les enfants. et que alors, si moi, je ne m'habillais pas chez les enfants, mes autres coéquipières s'habillaient chez les hommes, ce qui n'est pas beaucoup plus glorieux. Et en fait, à partir de là, on a commencé à réfléchir avec mon associée Clémence, qui était mon amie à la base. Et on s'est dit, comment ça se fait qu'il n'y a rien qui existe? Il faut absolument qu'on fasse un truc pour le rugby, c'est fondamental. Et en fait, suite à ça et à nos premières recherches, on s'est rendu compte que dans tous les sports qui sont traditionnellement masculins, vu qu'on a une base de licenciés ou de sportives féminines qui est bien moins importante, en fait, personne ne pense à elles. Bon, en tout cas, il n'y a aucune marque ou aucun produit qui existe pour vraiment s'adapter à leur morphologie, à leur sport. Et à partir de là, on s'est dit, OK, comment est-ce qu'on va faire pour avancer? Et ce qui différencie, on va dire, assez fondamentalement un homme d'une femme, notamment dans ces sports, c'est quand même la poitrine. Mmh. Donc, on est allé voir un laboratoire en Angleterre, un institut de la santé du sein, le Breast Health Institute, qui est situé à Portsmouth. Et on est allé voir la chercheuse qui était responsable en fait, de ce centre, qui s'appelle Joanne Asker. Joanna Wakefield maintenant, pour lui dire, du coup, nous, on voudrait créer une protection pour les femmes. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire ce qui se passe quand une femme se prend un coup sur la poitrine? Qu'est-ce que ça fait, quoi? Et là, on est un peu tombé des nues parce qu'elle nous a dit, je peux vous dire tout ce qui se passe sur une poitrine quand tu sautes, quand tu cours. Par contre, je ne sais pas du tout ce qui se passe quand on fait un choc, quand il y a un choc. Du coup, à partir de là, on a dit, est-ce que vous aimeriez bien savoir? Parce que nous, on aimerait bien savoir. C'est un truc, ça nous intéresse. La petite constellation d'Almaciens après un match, je pense qu'on l'a déjà vécu, quoi. Du coup, à partir de là, en fait, on a lancé la première étude mondiale sur l'impact des chocs sur la poitrine.
OK. Donc, il n'y avait rien qui avait été fait avant là-dessus.
Rien qui avait été fait. Il y avait une étude qui avait été faite dans les années 90 aux États-Unis sur la différence sur des coques de karaté.
D'accord.
Sur différentes coques de karaté, pour tester la chaleur, la résistance à la chaleur, comment est-ce que les femmes se sentaient, etc. Mais sinon, il n'y avait rien qui avait été lancé dans le monde. Et là, tu as 27 ans et tu dis « Wouh, première mondiale !» Génial. Donc on a lancé cette étude et on s'est rendu compte de plusieurs choses, notamment qu'en fait, la poitrine est soutenue en fait, par toute une sorte de petite constellation de structures qui s'appellent des ligaments de Cooper. Donc ça ressemble pas à un ligament qu'on a dans le genou. Les ligaments de Cooper, en fait, c'est des structures qui maintiennent la poitrine et qui vont jusque dans la poitrine, qui partent du haut de, enfin presque au niveau des omoplates. Et en fait, il se trouve que ces structures qui sont assez fines, si jamais elles sont étirées, si jamais il y a des lésions ou des étirements, chocs, si ça s'est distendu ou quoi que ce soit, c'est irréversible et c'est inopérable.
D'accord.
Donc voilà. Donc en fait, on a appris ça. On s'est dit, oulala, comment est-ce
que
ça fonctionne ?
Et du coup, ça, c'est quelque chose qui a été mis en avant par votre étude,
en fait,
qui n'était pas connu avant ou...
En fait, ce qui se passait, c'est qu'on savait que les ligaments de Cooper, il fallait les soutenir. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours porter un soutien-gorge adapté, enfin, un soutien-gorge de sport, donc qui est adapté au maintien. Parce qu'en fait, quand il n'y a pas de maintien, c'est ça qui va créer l'étirement de ces structures.
D'accord.
Sauf qu'en fait, on ne savait pas si des chocs endommageaient ces ligaments également. Et il se trouve que oui. Il se trouve qu'en fait, on a fait du coup un test déjà sur de la fréquence d'impact. On a fait ça sur du MMA en fait, parce qu'on avait pas mal de... ça permettait d'avoir de la vidéo. Donc la vidéo permettait d'identifier les zones les plus choquées. Et ensuite, on a reproduit, enfin nous, du coup le laboratoire a reproduit ses coups sur un mannequin en fait, on a recréé une sorte de sein. Et on a demandé à des pratiquantes, donc à la fois amatrices et jusqu'à un niveau plus important, de recréer ces coups sur la poitrine. Et on s'est rendu compte du coup que l'impact qui était des chocs que recevait la fausse poitrine du coup était vraiment important et donnait lieu du coup à des lésions potentielles au niveau des ligaments de Cooper.
D'accord.
Donc là, on s'est dit oula. Comment ça se fait que personne ne sait ça aujourd'hui ? Et on a décidé de se dire, il faut qu'on lance un produit de protection pour la poitrine, mais pas un produit qui fait que tu arrives avec une côte de maille ou que tu déconseilles l'intégralité
Chevalier.
Des sportifs. Exactement ça, tu vois. Ou tu déconseilles les sportifs de faire ces sports-là, parce que c'est pas du tout ce qu'on cherche à faire. Au contraire, on cherche vraiment à les encourager à aller dans ces sports, mais à le pratiquer du coup de manière beaucoup plus sécuritaire, on va dire. Mm-hmm. Et on s'est dit, il faut vraiment qu'on crée un produit qui va permettre de protéger la sportive sans l'empêcher de pratiquer, sans changer son style de jeu ou de combat ou quoi que ce soit, quelque chose qui soit vraiment une seconde peau pour elle. Et ce produit, on a fini par y arriver, il s'appelle la Revelia, et c'est une protection du buste dans laquelle en fait, on a encapsulé une technologie d'absorption des chocs qui est utilisée dans la moto, dans les sports extrêmes. Et en fait, on a réussi à faire une encapsulation sans aucune couture, donc qui fait qu'on n'a pas d'irritation au niveau de la poitrine quand on le porte. Et en fait, cette techno a la particularité de se rigidifier à l'impact.
Okay.
Donc en fait, c'est de la vitesse de vitrification du polyuréthane.
Ça absorbe en fait.
Exactement. Et c'est comme ça qu'on absorbe réellement et non pas qu'on répartit le choc.
D'accord.
Donc aujourd'hui, ce produit, il est hyper adapté sur des sports type du rugby, du jiu-jitsu, etc. Du hand même, si jamais il y a des petites modifs à faire pour faire du foot. Mais ce serait plus un enfer de faire un contrôle de la poitrine avec une protection comme ça. Et ça n'empêche, en fait, on n'a pas de modification de la température. Donc pareil, on n'a pas ultra chaud quand on la porte. Et on peut vraiment se concentrer sur le sport, sur sa passion et en tout cas réduire drastiquement les risques de lésions au niveau de la poitrine.
D'accord. Et ça, du coup, en fait, vous, à la base, vous vouliez créer une gamme de produits pour les femmes, mais c'est via cette étude-là que vous avez adapté votre produit.
Ouais, complètement. À la base, on avait même lancé une petite collection qui était vraiment orientée rugby, en mode on en a marre de mettre des shorts de mecs ou des maillots de mecs. Et on s'est rendu compte que finalement, la valeur ajoutée, c'était sur d'autres produits qui étaient beaucoup plus proches de la femme. Et on s'est dit, ah, c'est marrant. Vraiment, l'origine, c'était, il y a des épaulières de rugby. J'ai voulu m'acheter une épaulière de rugby. Je vais dans un magasin. Et là, on me propose une taille XS. Je me dis, XS, je n'ai pas l'impression d'être particulièrement XS. Qui finalement m'arrivait au milieu des cuisses. Les seins étaient disposés mais d'une manière mais tellement aléatoire, j'avais deux morceaux de mousse qui finalement se retrouvaient en dessous de ma poitrine. Mais c'est sympa parce qu'en fait il y avait quand même des jolies fleurs et c'était rose, donc j'étais hyper contente. C'était pas du tout confortable et je me suis dit mais comment ça se fait que le mec a réussi à me le vendre comme la meilleure protection qui existe aujourd'hui. Et donc là on s'est dit ok, il y a moyen de faire mieux que ça. Et en creusant vraiment ce sujet, de se dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne protège pas la poitrine des femmes ? Enfin, même en boxe, typiquement, une des premières femmes qui a validé le besoin, c'était Sarah Ouramoun. Il se trouve que elle, en fait, avant les Jeux de Rio, elle s'était pris un choc au niveau de sa protection poitrine. Et en fait, à l'époque, elle le faisait en mode mais complètement système D. Donc, en fait, elle avait découpé un plastron. Elle avait limé du coup les bords. Elle avait demandé à sa maman de lui coudre une doublure dans son soutien-gorge de sport. Et en fait, c'était vraiment une prothèque, mais artisanale au possible, quoi. Et du coup, forcément, c'est pas bien maintenu. Elle s'est pris un coup sur la protection. Ils ont cru qu'elle s'était fait une côte, quoi. Donc c'est des choses improbables sur des sportifs qui sont allés jusqu'au plus haut niveau. Donc même en boxe, le problème de ces coques rigides, c'est que elles vont venir créer des bleus, des lésions au niveau des côtes. C'est hyper inconfortable, compliqué de tenir une garde. Et donc il y a des femmes qui vont faire ce sport, qui vont pratiquer pendant des années, qui vont du coup un peu oublier ces soucis. Mais en fait, quand on veut augmenter le nombre de pratiquantes, quand on veut ouvrir l'accès à ces sports à des femmes, si jamais c'est inconfortable pendant vraiment longtemps, on va arrêter le sport. Mmh. Ou même quand on
commence, dangereux, bien en fait. Sûr.
Et en plus, il faut se dire aussi que ce qui est intéressant dans la féminisation de ces sports, c'est que ça arrive de plus en plus tôt. Sauf qu'en fait, quand une jeune fille qui avait 11-12 ans qui voulait faire de la boxe ou du rugby ou n'importe quoi commence à avoir de la poitrine, on ne sait pas comment réagir, ça fait mal, c'est hyper particulier. Donc en fait, un sport qui va rajouter de la douleur et encore plus à ce niveau-là va être écarté à la fois par la jeune fille mais aussi par ses parents, parce qu'en fait les parents ils n'ont pas du tout envie de laisser leurs enfants pratiquer ces sports-là dans des conditions... dans des mauvaises conditions. Et quand on va dans n'importe quel grand magasin, mais pas forcément citer le nom, et qu'on arrive et qu'on dit « Ah, j'ai envie de faire de la boxe », et qu'on dit « allez au rayon enfant ou au rayon homme », on se dit « Oh là là, qu'est-ce qui se passe ?» Donc c'est un peu ça, c'est aussi l'idée de couper ça, quoi.
Mais du coup, comment t'expliques que l'offre était totalement inexistante avant, alors que, bon, ça fait quand même, je veux dire, ça date pas d'hier, que les femmes pratiquent quand même des sports de combat, et qu'il y a bien un moment donné certaines femmes qui ont dû se dire quand même merde, comment je fais pour me protéger, etc. Ou est-ce que, enfin, je me dis comment c'est possible que personne n'ait eu l'idée entre guillemets de faire ça avant.
Je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Je pense que l'idée, il y a des gens qui l'ont eu. Le fait est qu'aujourd'hui, quand les marques sont dans des logiques économiques, et c'est vrai qu'en fait, ces marchés, même si on peut se dire qu'il y a de plus en plus de femmes qui le pratiquent, c'est les marchés qui sont quand même éclatés, à la fois géographiquement, à la fois en termes d'âge, en termes de sport, et qui font que même si on a des bassins de pratiquantes sur des sports de contact en soi, aujourd'hui, jusqu'à nous, alors après, je ne veux pas m'avancer non plus trop, mais en fait, on a été les premières à vraiment considérer à la fois des sports collectifs et des sports de combat comme des sports de contact. Et l'idée, c'était de créer un produit qui pourrait être utilisé dans différents sports. Alors forcément, il y a des marques qui ont essayé de faire des épaulières de rugby ou des choses comme ça, mais c'est des marchés qui sont petits, qui sont compliqués à toucher. Et si en plus le produit il est imparfait, forcément les ventes ne décollent pas. Donc forcément, on se dit j'arrête. Et pareil pour des grandes marques de sport qui souvent vont faire de la communication légèrement déplacée pour dire... Non, mais vraiment, on est super bon là-dessus. Et tu cliques sur la pub et on te propose un joli petit string ou éventuellement un ballon pour faire du sport. Mais en fait, finalement, ça crée un vrai décalage et c'est hyper déceptif auprès des sportifs. Mais en fait, c'est de répondre à des logiques économiques où ils ne peuvent pas produire à moins de 10 000 pièces par taille pour lancer dans un pays. Et forcément, quand on raisonne derrière par sport, on dit « Ah, mais j'ai envie de... » taper le rugby, le rugby en France, c'est en énorme croissance, mais ça représente aujourd'hui 30 000 licenciés FFR. Après, il y a d'autres choses qui gravitent autour. C'est terrible à dire, mais c'est souvent des équipes d'hommes qui pensent ces produits-là, d'où le superbe rose. Mais c'est aussi que c'est des logiques économiques et qui font que quand on n'arrive pas à aller toucher le marché, forcément, quand on lance quelque chose, ça ne fonctionne pas. Donc nous, on a vraiment pris le truc à l'envers de se dire « Ok, plutôt que de partir d'une ambition économique de je ne sais pas trop quoi, on part d'un besoin, donc d'un vrai problème, qui est en l'occurrence, nous, celui qu'on avait identifié, celui de la poitrine, et comment est-ce qu'on peut faire le sport dans des meilleures conditions. Et on va créer un produit qui va répondre à ce besoin pour les femmes. Donc aujourd'hui, on a un produit qui existe en deux variantes. Donc c'est une protection du buste qui arrive avec ou sans protection au niveau des épaules. Et on a encore... plusieurs développements produits qui nous permettraient, avec deux, trois autres variantes, de toucher l'ensemble des sports de contact.
Qu'est-ce qui fait du coup que vous vous êtes lancé en fait ? Parce que si, y a des, tu disais, il y a des logiques économiques, donc si les autres s'y sont cassés les dents, pourquoi vous vous êtes lancé ?
En fait, on le prend à un moment où la croissance est forte, où la médiatisation est croissante. Enfin, nous, en l'occurrence, on y pense depuis 2-3 ans, mais on n'est pas dans les mêmes logiques économiques parce qu'on n'a pas un besoin immédiat de dire ça, ça a marché, ça, ça n'a pas marché. On a pu prendre le temps. On a fait 2 ans de R&D, vraiment à pousser ce produit, à vraiment le travailler jusqu'au bout. Et en fait, c'est des logiques qui sont plus complexes pour des grandes marques parce qu'elles ont moins d'agilité. Elles ont moins d'agilité, elles peuvent moins aller se dire « Ok, on va y aller petit à petit, on va d'abord faire ça et ensuite faire ça » parce qu'il y a toujours un peu ce couperet économique. Donc nous, en fait, ce qu'on a fait là, et depuis qu'on a lancé le produit en mars, on a eu 1000 clientes maintenant. 1000 clientes, on a un taux de satisfaction qui est énorme, on a un taux de retour qui est extrêmement faible. On a un produit qui fonctionne, mais on s'est aussi laissé le temps de le faire fonctionner. On a pu écouter les sportives, on a pu leur parler, on a pu vraiment creuser ce sujet. Et en fait, la question de l'équipement et de la protection est assez complexe pour les grandes marques parce que ce n'est pas leur cœur de métier. C'est soit la chaussure, et en fait, tout ce qui arrive autour, c'est un peu c'est accessoire. On ne dirait pas comme ça, mais en fait, quand on regarde les comptes de ces sociétés, le chiffre d'affaires provient principalement de la vente de chaussures. Et tout ce qui va être activewear lifestyle va leur permettre de crédibiliser leur image de marque. Donc en fait, si jamais c'est plus compliqué de travailler sur des produits vraiment techniques, et vraiment, après, la question de la protection en tant que telle, c'est... Tout le monde, quand on en parle, les gens nous disent « mais en fait, il faut l'avoir vécu pour s'en rendre compte ». Et ça, c'est pas faux.
Et du coup, justement, tu disais « nous, on a pu le voir par rapport à nos clients ». Donc, vous travaillez avec des sportives.
En fait, on travaille avec des sportives,
oui. Est-ce que du coup, vous avez fait aussi, avant même de créer votre produit, vous avez été en contact avec ces femmes-là qui sont concernées du coup directement par les sports, par les chocs, etc. Quel a été leur retour à elles ? Parce que là, en l'occurrence, c'est vraiment... les premières concernées, quoi.
Ah ouais, bah complètement. En fait, nous, avant de se lancer un peu tête baissée dans un truc en disant « Ah, on a trouvé l'idée du siècle », on ne voulait pas du tout rester en haut de notre tour d'argent. Et on a parlé à énormément de sportives, que ce soit des sportives au niveau, des sportives amatrices, juste des femmes qui voulaient aussi se dire qu'elles ont enfin un produit qui est adapté à leur pratique. Et on a interrogé plus de 1500 personnes depuis qu'on a lancé Revel. Il y a nos premières études de marché, que ce soit en France, aux États-Unis, en Australie, en Angleterre. Donc, on a vraiment quelque chose assez global et qui rejoint des sports différents aussi. Donc, on a eu beaucoup de rugby au début, mais on a eu du roller derby, du hand, du foot. Et en fait, c'est vraiment le fait d'avoir agrégé toutes ces réponses-là, tous ces retours de femmes et de sportives qui nous a fait nous dire « Ok, ça vaut vraiment le coup de se lancer là-dedans, il y a vraiment un souci. »
Quels ont été les retours ?
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du coup,
Qu'en fait, elle se prenait des coups. Que quand on a un bleu au niveau de la poitrine, on ne sait pas quoi faire. Parfois, c'est assez compliqué parce que dans ces sports, souvent on va porter le bleu comme une fierté. On va se dire ah moi j'ai un super bleu et on partage le bleu sur le groupe Facebook et c'est génial et machin. Et je le sais parce qu'en fait je l'ai fait aussi, etc. Mais quand on rentre vraiment dans cette logique là et encore plus au niveau de la poitrine. C'est quand même, on se rend compte que en fait on est obligé d'être un peu warrior parce qu'on est dans ces sports là et qu'on a choisi, donc c'est un peu genre c'est normal, je me prends un bleu, mais en même temps j'ai choisi de faire ce sport. Et d'un autre côté, c'est pas hyper rassurant non plus, parce que quand on a un bleu qui reste pendant une semaine ou deux, qu'est-ce qu'on en fait, comment ça se fait, est-ce que c'est bon pour le corps, etc. Donc, on avait un peu ces retours des filles qui disaient aussi que surtout elles trouvaient pas du tout d'équipement qui leur correspondait et qu'elles aimeraient que cet équipement arrive. Donc voilà, on prend les choses petit à petit. On a cette protection. L'idée c'est qu'on a aussi une petite collection activewear, mais qui est plus pour nous permettre de rendre une image de marque, une image de ces sports qui est différente de celle qui est proposée. C'est-à-dire qu'on n'est pas, Gisèle Bündchen qui fait de la boxe. Hein, n'importe quelle nana qui fait de la boxe ne ressemble pas à ça. On n'est pas des filles qui se roulent dans la boue parce qu'on fait du rugby et que c'est ultra sexy. Non, enfin, pas du tout, quoi. Où on n'est pas non plus des énormes mecs on peut l'être, on peut ne pas l'être, mais on n'est pas, on n'a pas à être catégorisé dans tel ou tel camp. Et il se trouve que souvent, on a une hypersexualisation des sportives par certaines marques. Et d'un autre côté, dans l'œil du public, du grand public, pour le coup, on est hyper masculinisé. Donc, on a vraiment cette espèce de choc des deux stéréotypes, quoi. Alors qu'en fait, au final, toutes les sportives ne se reconnaissent dans aucun des deux, quoi. Donc, donc l'idée, c'était vraiment de proposer une approche qui était différente.
Une alternative et une alternative qui est véridique, enfin, qui est vraie.
Exactement. Exactement. Et de montrer vraiment les sportives dans leur force, dans leur beauté. Enfin, je trouve que les filles sont incroyables, toutes celles à qui on a parlé, toutes celles avec qui on a fait des shootings, etc. La plupart du temps, et même je pense dans 95% des shootings qu'on a fait, les filles ne sont pas maquillées. Mmh. Les filles sont hyper naturelles. On leur demande juste de faire allez-y, faites votre truc. Et nous derrière, on prend des photos sur lesquelles on voit la force, on voit la puissance de ces filles et leur beauté. Et c'est ça qui est incroyable, en fait. C'est qu'elles sont, elles sont toutes différentes. Et elles sont hyper bien mises en valeur par le produit. Donc ça, c'est cool. mais voilà, quoi. L'idée, c'est de recréer un univers et vraiment de venir casser les préjugés. Parce que quand on voit, on a fait des photos avec les filles de l'équipe nationale de rugby français. Mm-hmm. Et en fait, on a fait un super shooting avec elles parce qu'on arrivait à les mettre en valeur bien plus que ce qu'elles peuvent avoir dans des communications officielles parfois, quoi. Donc, alors que c'était tout simple, c'était juste une bonne photographe, des filles qui sont canons et c'est bête, mais aux yeux du public, quand tu vois une sportive comme ça, tu te dis mais ouais, j'ai vraiment envie, je pourrais vouloir ressembler à ça, quoi.
Ouais, faire comme elle.
Exactement. Et c'est un peu ça aussi qu'on veut encourager parce que on trouve qu'on manque un peu de figures vraiment identifiées dans tous les sports. Donc il y a des sports où forcément il y a une ou deux stars qui vont ressortir et voilà. Mais je pense que c'est important justement de réussir à montrer plus de personnes parce qu'en fait une seule personne ça va pas permettre à tout le monde de s'identifier. Donc il faut qu'il y ait plus de modèles qui émergent comme ça, qui soient toutes différentes, et qu'on embrasse un peu ce multiculturalisme qu'on a ici et qu'on a encore plus dans les sports de contact, parce que c'est des sports où tout le monde est le bienvenu, quoi. Et ça, c'est incroyable. C'est une richesse qu'on retrouve pas forcément ailleurs, quoi. Donc,
est-ce que tu penses que justement ces sports-là, qui sont dits des sports masculins, avec des milliards de guillemets, pâtissent justement un peu de cette comparaison en permanence avec les hommes?
Ah mais bien sûr, mais moi le nombre de fois où je suis arrivée même à une soirée et je dis ah je fais du rugby, ils sont là genre ah oh, mais tu joues à la baballe, c'est mignon, ou genre tu peux essayer de me plaquer, enfin que des trucs mais un peu stupides où soit on va être un peu ridiculisé, soit on va dire ah oh, mais t'es un bonhomme en fait, t'es genre mais vraiment juste laisse-moi, et c'est compliqué parce que parfois on a l'impression qu'on va devoir se conformer à une certaine image, donc devoir un peu bomber le buste en mode non mais ouais je suis trop forte, ça va, laisse-moi tranquille, ou juste non mais ça va, enfin je suis un peu
devoir s'excuser entre guillemets,
exactement genre non mais on joue pas vraiment, enfin pas du tout, et en plus on est toutes hyper fières de ce qu'on fait. Et ouais, et on a fait des rendez-vous même pour la boîte où on rencontrait que ce soit des investisseurs ou soi-disant des personnes qui sont censées nous aider ou nous accompagner sur des sujets. Et le mec, le premier truc qu'il commence à dire, c'est déjà je comprends pas pourquoi est-ce que les filles font de la boxe. je pense que... Et des choses comme ça, mais qui sortent de nulle part, quoi. Qui sortent de nulle part, qui sont d'un autre temps, quoi.
Et faut encore sexiste.
Ah mais complètement sexiste, mais complètement c'est je me joindrai peut-être avec vous à la douche, mais n'importe
ah
quoi
oui
mais non alors pas tout le monde, pas tout
c'est,
le monde
c'est
ça c'est
très,
plus
très loin quand même.
Alors en rendez-vous de travail j'ai jamais eu des choses à ce point-là, j'avoue que il y a quand même un certain respect à ce niveau-là, c'est pas non plus du harcèlement sexuel. En revanche c'est sûr qu'il y a un côté hyper paternaliste, genre elles sont mignonnes les petites Jeannettes de 20 ans qui pensent qu'elles vont changer le monde en faisant de la couture, quoi.
D'accord.
Donc voilà. Mais des gens, pour le coup, il y a aussi d'autres personnes qui ont été incroyables, qui nous ont soutenus, qui adorent l'image, qui justement pensent qu'il faut faire vraiment changer ces mentalités. Et on a un soutien de la part d'hommes comme de la part de femmes. Et c'est ça qui est hyper important et qui compte pour nous. Parce qu'en réalité, mine de rien, les athlètes et les sportives de demain et les supportrices, ce sera probablement des filles à qui le papa leur aura dit « vas-y ma fille, vas-y, franchement, mais éclate-toi dans ce sport, fais-toi plaisir et crée ta personnalité, fais-toi plein de souvenirs. » Et c'est aussi ça qu'on doit comprendre. Et ce sera le grand frère qui va, ou le petit frère qui va l'amener sur les terrains ou dans une salle de boxe. Enfin, c'est toutes ces choses-là, quoi.
Ou l'inverse.
Et complètement.
C'est
mais,
là où ça deviendrait...
Mais c'est ça qui est génial. Et en réalité, moi, je suis fanat de sport parce que dans ma famille, on est fanat de sport. Mais mes souvenirs, c'est parce que c'est mon père, c'est un mordu de sport. Il est incroyable. Et mes frères sont fans de sport. Et ma mère est hyper sportive. Et au final, c'est parce qu'on était dans une famille où toutes ces choses-là étaient possibles, quoi. C'est des matchs avec les grands-parents, etc. Et c'est souvent comme ça que ça commence. Mais pour qu'on ait une vraie, pour qu'il y ait une vraie croissance de ces sports et que ce soit beaucoup plus largement accepté, il faut que ce soit même des familles qui, à la base, ne sont pas sportives, dans laquelle ce soit possible, en fait. Qu'il n'y ait pas une petite fille qui, à 12 ans, se dise « Ah, mais je ne savais pas que j'avais le droit de faire du basket parce que je ne vois que des mecs à la télé. » Donc c'est un peu toutes ces choses-là qui... Enfin, je suis désolée, je suis un peu vocale par rapport à ça, mais c'est toutes ces choses-là qu'il faut vraiment changer pour que voilà, il n'y ait plus de problème de confiance en soi, de se sentir décalé ou déplacé parce qu'on a envie de pratiquer ces sports. Et juste qu'en fait, ce soit une possibilité. Juste ouvrir une petite fenêtre à l'arrière de la tête de n'importe quelle fille ou femme, parce qu'on peut s'y prendre à 30 ans, franchement, c'est ça aussi, c'est génialissime, que ce soit une possibilité. Et juste que ce ne soit pas une porte fermée, mais que la porte elle soit ouverte. Et si elle a envie de la pousser, elle la pousse. Si elle n'a pas envie, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas de forcer les gens et de dire la danse, c'est nul. Bien, enfin, vraiment loin de là, quoi. Chacun va trouver ce dont il a besoin dans un sport et va y puiser sa force. Mais il faut que ce soit une possibilité et il ne faut pas que ce soit une porte fermée.
J'ai une question aussi qui est très bête, mais pourquoi Révèle ?
Alors plusieurs choses. Déjà, on voulait un nom français parce qu'on est français et puis on se dit que c'est quand même cool d'avoir quelque chose comme ça. Et on s'était rendu compte que depuis toujours, depuis qu'on faisait du rugby et à chaque fois qu'on en parlait, les sports de contact pour nous c'est vraiment des révélateurs de personnalité. Dans le sens où toutes les sportives qu'on a interrogées nous ont dit bah avant, je ne savais pas que j'avais cette force de me prendre des coups, de me relever, d'aller me battre pour une coéquipière ou juste de m'être fait une énorme séance de sparring et j'ai pris des coups, mais j'y retourne quand même. Et en fait, souvent, on a mis les femmes dans des cases. On leur a dit, tu dois faire ça, tu dois faire ci, tu dois être gentille, tu ne dois pas dire de gros mots, tu dois faire de la danse où tu dois rester à la cuisine ou j'en sais rien, mais des trucs horribles et qui font qu'elles ont un peu perdu confiance en elles. Et en fait, dans ces sports, on reprend confiance en soi. On reprend confiance en soi parce qu'on se dit mais c'est pas possible. Genre, jamais je m'étais imaginé que je pouvais aller me jeter dans les jambes d'une fille la tête la première, alors qu'elle fait probablement 15 kilos de plus que moi ou qu'elle va beaucoup plus vite. Mais je l'ai fait. Et en fait, vraiment, cette espèce de petite lueur de se dire « Mais j'ai fait quelque chose que je pensais jamais possible. Jamais être possible. » Et bien ça change une personnalité et ça renforce. Et c'est une arme qu'on a, que ce soit dans notre vie pro, dans notre vie perso, dans tout ce qu'on va pouvoir affronter dans la vie, de savoir qu'on a cette force, et bien ça vaut quelque chose, on trouve.
Ça pourrait être un mot de fin, ça. Tu vois, c'est marrant parce que moi, j'ai trouvé que le mot « révèle », dans la publicité aujourd'hui, à la télévision, etc., c'est des mots qu'on utilise beaucoup pour la beauté,
ouais,
justement, des femmes. Utiliser machin, ça va révèle la beauté des femmes, etc. Mmh. Et j'ai trouvé que, du coup, le parallèle était assez intéressant.
C'est marrant parce que les gens nous disent ça au début, quand on a voulu appeler « révèle, révèle ». Ils me disaient « Ah, mais je comprends pas, moi, ça me fait penser à des produits de beauté. » Et c'est vrai, que souvent, sur le sport, c'est des mots qui sont... Qui sont durs, où il y a des K, des R, des machins, enfin pas justement pas des R, enfin où il y a des K, où il y a des choses un peu dures, quoi. Et nous on s'est dit en fait je pense que les sports qu'on fait sont assez violents pour qu'on puisse prendre le truc à l'envers et de se dire qu'on apporte autre chose, quoi. Et c'est un peu l'idée de ce bouclier qu'on va avoir sur soi et qui vont permettre de découvrir notre force et de nous protéger en même temps.
Bah, en fait, la plus belle des beautés, juste de se protéger et de se faire du bien.
Ah, mais complètement. Mais c'est pour ça que, en fait, c'est cette espèce de dépassement de soi, de se dire j'arrive à faire quelque chose que je pensais pas possible, de se dire que je suis meilleure aujourd'hui que ce que j'étais hier parce que j'ai progressé, parce que j'ai fait ça, parce que j'ai soutenu une coéquipière. Ça, c'est superbe. Et quand je parle de beauté des femmes, en réalité, c'est cette espèce de mélange de force et de fragilité qu'elles ont. Et de s'encourager, comme tu disais, à continuer à pratiquer leur sport en se protégeant, ce serait super.
C'est très marrant, mais le mot que tu prononces le plus pendant l'interview, c'est le mot confiance.
Je pense que c'est parce qu'il y a plusieurs choses. Juste parce que les sportives, je pense qu'elles ont une forme de crise de confiance vis-à-vis des autres marques, parce qu'elles ne se sont pas senties respectées, en fait. Elles ne sont pas senties respectées dans leur pratique, elles ne sont pas senties respectées en tant que femmes, parce que quand on propose un produit soi-disant estampillé pour femmes, mais on sait exactement que c'est le même produit pour hommes, et c'est justement trahir la confiance de ces sportives-là en leur vendant quelque chose de mensonger.
Et souvent plus cher.
Et souvent plus cher, évidemment, alors qu'on a rien changé. Ou quand on met une sportive incroyable en photo avec de l'équipement et qu'en fait, l'équipement a été développé spécialement pour ce photoshoot et que fin de l'histoire derrière, c'est pas disponible. Voilà, c'est que des choses qui, en fait, vont être déceptives au niveau des sportives. Donc, il y a à la fois la confiance vis-à-vis de l'extérieur. Il y a aussi la question de la confiance en soi, qui pour nous est fondamentale et qui est la base de Revel. Et pourquoi est-ce qu'on a créé ça? C'est pour que les sportives, elles aient confiance en elles. Et il y a aussi finalement cette forme de confiance en la société, en quelque chose de positif et de meilleur, quoi. De se dire, je pense que mon sport, il va aller mieux. Je pense que les conditions de mon sport pour les femmes vont s'améliorer. Je pense que avoir plus confiance en le regard que va porter la société sur ces femmes. Et c'est vrai que même au sein, nous, de l'équipe, en tant qu'entreprise, la confiance, c'est quelque chose qui est fondamental. On est hyper, hyper ouverte, hyper, hyper honnête. Entre nous, on se fait confiance. Et c'est confiance, c'est assez proche de solidarité aussi, finalement, parfois. Et de se tendre la main et de se soutenir en tant que sportive, mais d'avoir des personnes qui vont graviter autour de nous, qui vont aussi nous soutenir et avoir confiance en nous. C'est ce qui fait qu'on est là aujourd'hui et on espère pouvoir rendre un petit peu de tout ça au monde.
Quel beau projet. Si tu devais choisir, toi, un moment de sport ou même peut-être une femme ou qui a été décisive pour toi dans ton cheminement de femme, justement, qu'est-ce que tu choisirais? Quel est un moment fort que tu...
Un moment fort, quand j'étais jeune, ça va être compliqué à trouver parce que vraiment, je passais mes dimanches après-midi devant la télé à regarder des matchs de rugby ou au stade. Mais je pense que c'est vraiment les JO, les Jeux Olympiques, tous les 4 ans. Et je me rappelle vraiment encore plus ceux de 2000 à Sydney. Je passais vraiment 15 jours avec ma famille à ne faire mais que ça. Et c'était ça. Et il fallait se réveiller à 4h30 pour regarder la finale du 100 mètres de nage libre, alors que clairement, on ne le regarde pas du tout le reste de l'année. Mais c'était ça. Et j'ai un souvenir de Christine Aron en finale du 100 mètres sur les JO à Sydney. Et je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est ça qui m'est venu là maintenant. Mais en fait, c'est ça qui est incroyable dans les Jeux. C'est qu'on se rend compte que tous les sports peuvent nous faire vibrer. Et qu'en fait, il y a un monde mais incroyable qui s'offre à nous et à tous les jeunes. Et c'est une tribune superbe, en fait, pour encourager les femmes à faire du sport. Et donc, je pense que les Jeux Olympiques, pour moi, c'est mes plus gros souvenirs de sport d'enfance qui faisaient que j'ai voulu être journaliste sportive. Donc, franchement, mes Clémentine, Sarla, mes 1 milliard de respect,
écoute,
de tout, de genre, si jamais un jour, je peux toucher ta main. Mais en vrai, c'est le moment où là, j'ai manqué typiquement de confiance en moi. Je me suis dit, je voyais aucune femme, journaliste sportive à la télé. Ou sinon, c'est toujours des trucs où on disait qu'elle faisait rien du tout à côté du terrain, machin. Et du coup, je me suis dit, c'est pas fait pour moi. Et il y a toujours un peu cette question de confiance. Et moi, en fait, c'est le sport qui m'a donné confiance en moi. Ce serait bien qu'on ait plus ce problème de confiance en nous quand on est jeune. Et ouais, franchement, savoir que toutes les portes sont ouvertes et qu'il faut juste qu'on y aille, qu'on se bouge et qu'on trouve notre passion, que ce soit mais dans n'importe quoi. Si on veut bosser dans la construction, on bosse dans la construction. Si on veut être journaliste, on sera journaliste. On peut tout faire. Il faut juste qu'on s'en donne les moyens et qu'on se persuade qu'on y arrivera et qu'il y aura toujours des gens qui seront là pour aider sur notre projet. Il y en aura d'autres qui seront là pour dire que c'est pas possible. Ça, c'est une évidence parce que la négativité arrive toujours. Mais en réalité, en étant positif et en tendant la main aux autres, on aura toujours des mains qui vont se tendre en retour.
Nous, notre podcast s'appelle Championne du monde pour plein de raisons. Toi, quelle serait ta définition d'une championne du monde ?
Championne du monde ? C'est marrant, ça me fait penser un peu à quand on a un peu la tasse qu'on va offrir à sa maman et qu'on a 8 ans et qu'on lui dit « t'es la championne des mamans ». Pour moi, une championne, c'est une personne qui est capable de se relever quand elle a un échec. Mais pas que quand elle a un échec, en fait. C'est-à-dire que toujours essayer de comprendre ce qui s'est passé, d'essayer d'avancer et de trouver du positif dans des choses qui n'ont pas forcément été évidentes. Et une championne, c'est une personne qui a confiance en soi et qui a assez confiance en soi, justement, pour ne pas avoir besoin de rabaisser les autres. Et ça, c'est un peu, ça fait un peu championne slash reine slash ce que tu veux, mais c'est un peu l'idée que je vois. C'est quelqu'un qui est allé au bout de ses rêves, qui a mis tout son cœur, toute son énergie, tout son travail, tout son acharnement, toute son âme dans son sport ou dans ce qu'elle fait de manière générale, mais qui a dépassé le stade de la revanche, mais qui en veut, mais qui est capable aussi de s'ouvrir aux autres. Et ça, je trouve ça génial.
Bah, merci beaucoup, Laetitia, en tout cas. Et puis, on vous souhaite beaucoup de bonheur avec Revel.
Bah, merci, Cléo. J'étais vraiment ravie de parler avec toi aujourd'hui.
Prochaine.
À très vite.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.